Bonjour à tous. Il y a nos frères et sœurs en Christ qui sont aussi en Zoom. Que Dieu vous bénisse. Nous voici pour partager la parole de Dieu. Notre sujet de ce jour sera les épreuves de notre foi. Pour cela, nous allons lire dans l'épître de 1 Jean 2, versets 12 et 13. dit : Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et verset 13, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Une première remarque dans ces deux versets. À deux reprises, l'apôtre Jean dit pourquoi il écrit. Pourquoi il écrit l'épître? Parce qu'au verset 12, il dit « Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Et verset 13, « Vous avez connu le Père, celui qui est dès le commencement. » Et nous voyons que ça, c'est le passé. Mais il l'a écrit parce qu'il veut que quelque chose d'autre se produise. Et nous l'avons au chapitre 2, verset 1, qui dit « Afin que vous ne péchiez point. » Ça, c'est ce qu'il veut. « Afin que vous ne péchiez point. » Et au chapitre 2, verset 28, il va dire « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez en lui. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Que nous n'ayons pas honte de lui. » Et je remarquais dans le premier chant que nous avons chanté, il y avait cette expression de ne pas avoir honte de lui. Ça, c'est l'avenir pour nous. Ne pas avoir honte. Le verset 28 sera la base de la réflexion. Le début du verset dit « Et maintenant ». Ce « maintenant » sous-entend que si quelqu'un nie que Jésus est le Christ, on dit c'est un antichrist, un faux prophète, un prof. Donc attention, ce qu'il faut, comme dit le verset 28, c'est de demeurer en lui. Et aussi, nous avons chanté un chant qui nous aide de demeurer en lui. Le « en lui », c'est le Père, c'est le Fils, le Saint-Esprit. Quand nous croyons, le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, vient demeurer en nous. Et nous, quand Dieu nous adopte, simplement nous recevons sa divine puissance, sa vie divine en nous, le principe de vie qui vient de Dieu seul. L'apôtre Jean veut que ceux qui se réclament de Jésus-Christ aient de l'assurance et n'aient pas honte de lui et ne soient pas éloignés de lui non plus. Qui n'a pas à avoir honte devant un Dieu de justice, de sainteté totale? Nous avons tous à avoir honte. Je pense que le jour où nous nous sommes repentis, convertis, nous avons eu honte. Quand nous avons compris que ce sont nos péchés qui ont conduit Jésus-Christ à la croix. Mais Dieu a voulu enlever cette honte. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu, pour que nous n'ayons plus honte devant lui. parce que nous n'avons plus à nous présenter avec ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous avons fait. Mais nous pouvons nous présenter avec ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ce que Jésus-Christ a fait pour vous, ce qu'il a fait pour toi. Mais cette assurance que Dieu veut mettre dans notre cœur, c'est selon l'apôtre Jean, divers critères. C'est sur divers critères. Avant tout, nous avons besoin d'être sûrs de notre Sauveur, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, et bien sûr vis-à-vis de Dieu, et être sûr de lui. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté pour la première fois, qu'il nous est rapporté à ses disciples réunis après sa résurrection, il a prononcé plusieurs paroles, mais sa première parole a été celle-ci, « La paix soit avec vous ». C'est dans Jean 20. Puis, il a répété et il a dit autre chose. Puis, il est revenu là-dessus parce que il a voulu insister sur l'aspect de son message. La raison pour laquelle il est venu les voir. Lisons Jean 20, chapitre 20, verset 19 et puis 21. Il a dit, verset 19, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et verset 21, Jésus leur dit de nouveau, dans ce verset, « La paix soit avec vous. » Je crois qu'il a voulu que les disciples soient remplis de paix. Tous nous voulons la paix, n'est-ce pas? Surtout en ce temps où nous vivons, où nous voyons que il y a toutes sortes de choses. Nous voulons la paix. Mais une paix qui ressemble à celui que Dieu veut nous donner. Les disciples, Dieu a voulu que les disciples soit rempli de paix. Jésus était là pour apporter cette paix. Une paix en eux-mêmes et une paix pour eux-mêmes. Jésus, bien sûr, était venu faire la paix entre Dieu et les hommes. C'était là le but de sa venue. Une alliance de paix, comme nous le dit, nous pouvons le lire dans Ésaïe 54, verset 10. Même si les montagnes s'éloigneraient, se mettaient à bouger. Quand les collines s'éloigneraient, même si les collines venaient à chanceler, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancelera jamais, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Mais ce qu'il désire, c'est que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui peut nous donner cette paix? Sur quelle base? On entend bien souvent, et ça nous arrive, hein, ça nous a peut-être arrivé un jour ou l'autre, si ça ne vous est pas encore arrivé, ça vous arrivera peut-être. Je ne me sens pas très bien. Ou je ne suis pas sûr où j'en suis spirituellement. Ce n'est pas cette paix-là que Dieu demande, cette absence de paix. Parce que quand on se pose des questions, c'est qu'on n'a pas de paix. Notre paix ne dépend pas de nos sentiments. Ce n'est pas parce qu'un jour, telle circonstance ou pensée qui s'élève dans notre cœur peut nous troubler que nous pouvons dire « je ne me sens pas bien ». Notre paix dépend de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est le test doctrinal de notre foi. Nous mettons notre foi et paix que Dieu veut mettre dans notre cœur à l'épreuve. À l'épreuve de quoi? À l'épreuve de vérité que Dieu nous a révélés dans sa parole et en Jésus-Christ. Notre paix ne dépend pas de nos sentiments. Nous avons lu dans 1 Jean 2:12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Voilà la première condition de paix dans nos cœurs. C'est Dieu qui le dit, nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Ce n'est pas une supposition que nous faisons, et ça ne dépend pas de nos sentiments. Et au verset 13, nous avons lu que l'apôtre Jean rajoute, « Parce que vous avez connu le Père, notre paix dépend du pardon que Jésus a acquis pour nous, et dépend de notre connaissance du Père. » Et Jean dit à ses petits-enfants, « Vous avez connu le Père. » Et il ne met pas quelque chose au présent, il le met au passé, soulignant que dans l'expression de chacun et de chacune, dans l'expérience, pardon, de chacun et chacune, ceux qui sont en relation avec Dieu, nous avons un jour connu un moment et un temps de la vie, et nous avons fait la connaissance de Dieu. Avant, nous ne connaissions pas Dieu. Donc un jour, nous l'avons connu. On ne s'inquiétait pas de Dieu. Un jour, on s'inquiétait de savoir qui est Dieu. Nous avons été introduits à Dieu, et c'est l'action de l'Esprit qui nous a fait connaître Dieu. C'est sa parole. C'est parce que quelqu'un vous a partagé la parole, vous a exhorté. Vous avez entendu l'évangile. C'est sa parole qui me l'a fait découvrir. Cette parole, la Bible, c'est la volonté de Dieu. Nous avons fait connaissance avec Dieu et notre paix est basée sur cette connaissance de Dieu. Dieu, nous le connaissons parce qu'il s'est fait connaître. Il veut se faire connaître personnellement à chacun et à chacune d'entre nous. Cela se précise en 1 Jean chapitre 3 que nous connaissons beaucoup par cœur. Voyez quel amour le Père vous a témoigné, vous a donné, pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous appelons enfants de Dieu. Nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Cela, c'est la parole de Dieu qui le dit dans 1 Jean 4, verset 16. C'est Dieu qui nous appelle ses enfants. Et c'est sur cette connaissance, cet appel que Dieu veut que nous basions notre foi. Et c'est en cette connaissance que peut se maintenir la paix que Jésus-Christ nous a acquise. Paix du pardon, c'est Dieu qui le dit, vos péchés sont pardonnés. Paix de la connaissance, paix de l'identification, Dieu nous a appelés, reconnus comme ses enfants. Voyons encore quelques versets pour que nous soyons en paix avec nous-mêmes et que notre foi soit fondée sur l'affirmation que Dieu sur sa doctrine, affirmation de Dieu sur son enseignement, et pas sur nos sentiments, ni même les expériences, encore qu'elles soient importantes, mais sur ce que Dieu a fait. Petits enfants, dit la parole de Dieu, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Dieu veut que lorsque nous le rencontrerons, lorsque nous serons en face de lui, d'une façon nouvelle, d'une façon complète et totale, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons de l'assurance, mais à une petite condition, c'est de demeurer en lui. Le en lui, ici dans ce texte, le en lui, c'est le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Quand nous avons cru, quand nous croyons, quand nous avons la foi, le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, vient habiter en nous. on peut dire, poursuivre cette relation, de la développer, c'est ça, la demeure. Dieu voudrait que l'on vive tout l'ensemble de notre vie dans sa présence, demeurer en lui. Que nous le connaissions, non seulement parce qu'il s'est fait connaître à nous comme un Père, en Jésus-Christ, mais comme un Père qui nous accompagne constamment, sans défaillance, dans chaque circonstance de notre vie. Et il nous demande de demeurer constamment dans sa présence, qui est la sienne. Puis, nous avons à établir notre foi vis-à-vis des autres. C'est vrai que Dieu nous demande la foi, mais vis-à-vis des autres, nous avons à établir aussi notre foi. C'est une chose que Dieu veut, qui est nécessaire que nous soyons sûrs de notre salut, de notre sauveur, sans oublier ce que nous savons de lui. Mais il serait intéressant que ceux qui nous entourent partagent cette assurance qui est en nous. Ce n'est pas toujours le cas, mais Dieu voudrait que vis-à-vis des autres, il y ait une relation de ce fait que nous sommes de Dieu, que nous sommes en relation avec Dieu, que nous avons une connaissance de Dieu, que nous, qui nous remplit d'une paix, d'une assurance que seul Dieu peut donner. Vis-à-vis des autres, il y a un comportement qui résulte de ce que Dieu a fait dans nos corps, cœurs. Et l'apôtre Jean va assez loin et il dit, si ce comportement est totalement absent, alors il faut remettre en question notre relation avec Dieu. Et quelle est cette relation? Dieu nous demande d'aimer. C'est un commandement de Dieu. Nous avons la mission d'aimer. Nous avons la mission d'aimer. Quand Dieu nous demande d'aimer quelqu'un, d'aimer les autres, ce n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il nous avait demandé avant. Comment ce commandement est-il nouveau pour nous? Il est nouveau parce que cet amour pour les autres s'est réalisé de façon nouvelle, justement par rapport à notre ancienne nature en Jésus-Christ. Oui, cet amour pour les autres s'est réalisé d'une façon nouvelle, tout simplement en Jésus-Christ. Ce qu'il nous demande, c'est justement d'aimer les autres comme Jésus-Christ a aimé les autres. Ça nous met au pied du mur. Ce n'est pas une chose facile, nous le savons. Cela nous met au pied du mur. En fait, ça reste impossible pour ce que nous sommes en nous-mêmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut nous rendre capables, par cette action extraordinaire et miraculeuse de l'Esprit en nous, de permettre et de développer, puis de montrer un amour qui est le sien, finalement, pour les autres. Si on vient avec notre amour, ce sera dire, il faut venir avec l'amour de Jésus-Christ. Prions dans ce sens et dire, je ne peux pas aimer, mais que l'amour de Jésus-Christ vienne en moi. Nous ne pouvons pas nous cacher. C'est vrai qu'on dit qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Déjà, c'est déjà pas bien ça. Je dis une expression qui sort. Voilà. Mais il faut prier, demander à Dieu. Vous savez, je vais le faire. J'ai une épouse Monique, je demande à Dieu, je demande à Dieu de l'aimer. J'ai un certain âge, et je constate qu'il faut continuer à le faire. Je vous encourage à le faire. Alors, voir quand c'est dans la maison, voir à l'extérieur, Vous voyez ce que j'ai oublié? Que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela. Vous serez victorieux, victorieuse, tout de suite. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Et que ce soit cet amour-là qui se mette, qui soit transmis aux autres, et ce sera l'amour nouveau. Cet amour prend deux formes. Par ce que nous sommes et par ce que nous faisons. Si nous montrons un sourire pour dire que nous sommes remplis d'amour, cela ne suffit pas. Jean dit, à ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ est amour. Et c'est à cause de ce qu'il est que nous découvrons son amour. Mais aussi, c'est à cause de ce qu'il fait. Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc, c'est l'action, c'est l'agissement qui démontre l'amour. Nous aussi, dit Jean, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est une parole qui peut paraître très dure, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que nous la comprenions dans son sens très profond. Notre amour, c'est un don constant, constant. Jésus dit pardonner 70 fois, combien de fois, n'est-ce pas? Pardonner. Notre amour est un don constant. Ce que nous vivons, nous le communiquons tout simplement, parce que la vie est naturelle. Par cet acte d'amour de Jésus-Christ, il est dit encore dans l'épître de Jean, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 2 qui dit cela. Il faut que nous soyons des enfants de Dieu, reconnus par Dieu, identifiés par lui, mais aussi reconnus par les autres. S'ils ne reconnaissent pas en nous cette qualité, ce statut de Dieu, il faut que nous réfléchissions à la question. À l'amour, nous devons ajouter un autre rôle, celui de vigilance. L'apôtre Jean, à trois fois, au moins en parle. Il en parle. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui le Seigneur est juste. Il y a toujours des chrétiens qui sont contre tout et ne voient rien de positif. C'est plutôt pénible. Mais nous devons apprendre à être des chrétiens anti-péché, anti-injustice. Et ensuite, cette hostilité est au chapitre 2, verset 18 de 1 Jean. Il nous faut reconnaître les antichrists, ceux qui sont contre le Seigneur Jésus-Christ, qui témoignent d'une action, d'un esprit qui est à l'inverse de ce que le Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ, qui nie que Jésus est le Christ. Il s'est répété au chapitre 4, versets 1 à 3. Il y a des antichrists et des faux prophètes. Et l'épître se termine avec ce verset. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous devons faire attention. Nous sommes contre les idoles, mais chacun peut avoir aussi des idoles. Ça peut être le petit nounours qu'on ne lâche pas. Ça peut être notre profession, tout simplement. Ça peut être sa femme, son mari, ses enfants. Mais Jésus dit, celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille plus que moi, ne peut être mon disciple. Il y a tellement d'idoles différentes. Petits enfants, attention, gardez-vous des idoles. Que Dieu nous aide à vivre l'amour honnête et aussi dans notre lutte contre ce qui est contraire à Dieu, contraire à sa volonté. Et voilà la troisième et la plus importante des épreuves de notre foi, de la réalité de notre assurance, elle est vis-à-vis de Dieu. C'est très bien d'être sûr en nous-mêmes et avec nous-mêmes que vis-à-vis des autres, nous nous conduisions certes avec défaillance, mais dans une mesure qui permet aux autres, de nous connaître, de nous identifier, voyant au bout qu'il y a quelque chose de Dieu. Je dis ça et je pense à quand vous avez des collègues, des amis qui vous disent « Je vois qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas ?» La manière dont tu agis, tu ne fais pas comme tout le monde. Oui, je pense que là, ils sont en train de voir quelque chose de Dieu. Et ça nous surprend bien, bien souvent. Comment ils font pour voir qu'il y a quelque chose ? Puis le jour où vous dites que je suis chrétien, « Ah, je le savais !» Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu que l'on voit chez lui. Et ça se voit. Je ne sais pas comment, mais ça se voit. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que vis-à-vis de Dieu, nous soyons bien en règle. Nous avons à demeurer en lui, nous avons lu. Le fait de demeurer en lui nous conduit à approfondir notre connaissance de celui que nous avons rencontré. Nous l'avons rencontré, nous avons fait connaissance avec lui, nous avons maintenant de façon constante à développer cette connaissance. Et il nous donne tellement de moyens différents à le développer. Que Dieu nous aide à le faire. Pour terminer, je vais vous lire le texte de 2 Corinthiens 13, 4 et 5, mais dans la version parole vivante, la parole vivante. Il est dit, certes, il fut faible lorsqu'il mourut sur la croix. Nous savons qui ? C'est Jésus. Mais la puissance de Dieu lui a rendu la vie. C'est par elle qu'il vit à présent. Nous aussi, si nous participons à sa faiblesse, nous participons également dans la communion avec lui à sa vie par la puissance de Dieu. Verset 5. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous êtes dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? À moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Bien-aimé, que Dieu nous garde de l'échec. Quand nous nous mettrons nous-mêmes à l'épreuve pour examiner notre vie, pour voir si nous sommes dans la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.